carrefour du Maghreb, Juliette Rangeval.
Bonjour et bienvenue à Marseille à l'occasion des nouvelles rencontres d'Averroès pour parler de l'échiquier méditerranéen et des enjeux géopolitiques dans cette région du monde avec l'historien Florian Louis. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur notamment de l'Atlas historique de la Méditerranée aux éditions Autrement et avec le sociologue Mustapha Elmiri. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes, vous, l'auteur de « Comment l'Europe a sous-traité l'encampement des réfugiés syriens ». Au Moyen-Orient, et c'est chez les éditions Le Bordelot. Bienvenue à tous. La première question que je voudrais vous poser, Florian Louis, c'est celle de cet échiquier méditerranéen. Est-ce que véritablement le plateau de jeu dont il est question quand on parle de cet espace ressemble à un échiquier?
Le problème de la métaphore de l'échiquier, c'est qu'elle réduit les acteurs locaux au statut de pion, puisque sur un échiquier, d'abord on est dans un face-à-face. Or, effectivement, il y a bien sûr une fracture nord-sud qui clive la Méditerranée, mais il n'y a pas que cela. Et interpréter et lire les enjeux de pouvoir aujourd'hui et les enjeux sociaux en Méditerranée seulement au prisme du face-à-face, c'est perdre beaucoup de la richesse et de la subtilité de l'espace. C'est le premier problème. Et puis le deuxième problème, comme je le disais, c'est que ça réduit un peu les acteurs à des pions, les 21 ou 23 selon les calculs États riverains, qui seraient justement aux mains d'acteurs plus puissants, chinois, russes. Et donc, c'est peut-être pas effectivement la meilleure des métaphores. Elle est intéressante, mais il faut être conscient des limites qui sont les siennes.
Vous parleriez plutôt d'une mosaïque méditerranéenne ?
Tout à fait. La mosaïque méditerranéenne, je pense que c'est plus juste que l'échiquier. Ça ressemble un peu à un échiquier, une mosaïque. Ce sont des cases, mais ce sont des cases plus irrégulières. Ce sont des cases qui sont séparés et ajointés, et ça va bien à cette mer Méditerranée qui est justement un mélange d'unité et de diversité. La Méditerranée, c'est effectivement la rencontre entre des peuples, des religions, des cultures, des civilisations qui ont chacune leur idiosyncrasie, leur singularité, mais qui tout ensemble, comme justement ces petits morceaux de terre cuite qu'on rattache pour faire une mosaïque, tout ensemble produisent quelque chose de nouveau et qu'il faut donc à la fois considérer dans leur singularité et dans leur concordance plurielle.
Mustapha Elmiri, vous parleriez d'un échiquier méditerranéen ?
Pas exactement. Je rejoins ce qui vient d'être dit par Florian. Je pense que la Méditerranée est moins un échiquier qu'une forme d'archipel lié entre elles. Archipel parce qu'il y a beaucoup de singularités dans cette Méditerranée, des singularités de parcours de certaines populations, de singularités de construction historique des États. Et en même temps, il y a beaucoup de communs. Deux siècles de colonisation, quasiment quatre siècles d'esclavage, des populations subsahariennes qui ont traversé la Méditerranée, mais y compris en grande partie l'Atlantique, participent à produire des circulations extrêmement fortes. Et donc, il est difficile, dans ce cas-là, de ne voir que ce qui se joue en termes de stratégie. Et ce qui pose aussi problème avec cette notion d'échiquier, si on peut le dire de cette manière-là, c'est qu'elle ne donne pas la place aux sociétés. On est sur la question des acteurs. Or, moi, je pense qu'il y a un grand oublié de la Méditerranée, ce sont toutes les sociétés méditerranéennes, parce qu'on en fait souvent une réduction au régime qui la gouverne et non pas aux sociétés dites méditerranéennes qui lui donnent son dynamisme anthropologique. Or, quand le politique change, c'est parce que l'anthropologique lui-même se modifie.
On voit que cette Méditerranée, vous mettez un contour qui va très profondément sur le continent africain. L'Afrique subsaharienne, c'est aussi l'espace méditerranéen ?
Pour moi, oui. Pour la bonne et simple raison que la Méditerranée est un fragment important de l'histoire du monde et que l'Afrique a joué une grande part dans cette histoire du monde, et notamment dans le lien entre Méditerranée, entre la rive nord et la rive sud. Donc souvent, il y a une tendance à limiter la Méditerranée aux pays du Maghreb ou de descendre peut-être à l'Égypte, à la Libye. Mais on a tendance à en exclure les pays d'Afrique subsaharienne, d'abord qui ont une forte influence des pays d'Afrique du Nord, en grande partie, arabo-musulmans, qui ont une influence importante. Mais on oublie aussi l'influence inverse. Les livres ont circulé de l'Afrique subsaharienne vers l'Europe, par exemple. Donc en réalité, il nous manque une part d'histoire subsaharienne qui n'est pas faite parce qu'elle commence soit pour nous à l'époque coloniale, soit à l'esclavage. Mais l'histoire de l'Afrique en tant que telle reste quelque chose d'effacé pour les Européens. Et c'est pour ça que j'aurais introduit en permanence, parce qu'il me semble que la Méditerranée ne serait pas ce qu'elle est sans la totalité de l'Afrique non plus.
Mustapha Elmiri vient de parler de l'Afrique et de la Méditerranée, part importante de l'histoire du monde. Ça a été le cas historiquement. Est-ce qu'aujourd'hui la Méditerranée fait toujours, Florian Louis, partie de façon conséquente de l'histoire de la planète ?
Oui, moins sans doute qu'avant, en tout cas différemment. Il est clair que pendant longtemps, on a écrit l'histoire depuis ces puissances dominantes et donc on plaçait au centre du monde la Méditerranée. Est-ce qu'elle l'était vraiment ? Peut-être pas. Et beaucoup de travaux ces dernières décennies d'histoire globale, d'histoire décentrée, ont incité à nous montrer, à nous rappeler qu'en fait, le cœur du monde, par exemple au XVe siècle, c'était plutôt en Asie qu'en Méditerranée, comme nos récits occidentalo-centriques nous le faisaient penser. Donc de ce point de vue-là, effectivement, aujourd'hui, on a tendance à plutôt placer le cœur du pouvoir, de la puissance et à considérer que là où l'histoire se fait à l'échelle globale, ce serait plutôt aux États-Unis, en Asie orientale, dans l'Indo-Pacifique, entre les deux. Et de ce point de vue-là, ça contribue beaucoup à marginaliser la Méditerranée. Il faut cependant pas oublier précisément que la Méditerranée, c'est un trait d'union au sens propre, un passage, notamment depuis le percement du canal de Suez, précisément entre le monde atlantique et le monde de l'océan Indien et au-delà du Pacifique. Et donc, finalement, la Méditerranée reste, de ce point de vue-là, au cœur de ces espaces, de ces pôles, le pôle atlantique nord-américain et le pôle asiatique indo-pacifique. La Méditerranée reste entre les deux. Et donc, pour le meilleur comme pour le pire, elle profite et elle reçoit en même temps les échos, les vagues, voire le tsunami peut-être, ne l'espérons pas, mais qui peut venir de chacun de ces deux théâtres.
On va rester sur cet espace méditerranéen et parler de ces sociétés qui paraissent aujourd'hui très fragilisées par deux événements qui se passent en Méditerranée. Le premier, c'est la guerre à Gaza, au Liban, qui fragilise les sociétés de la rive nord, comme les sociétés de la rive sud, du Maroc jusqu'au bout du Moyen-Orient, et puis la question des migrations. Sur cette question du conflit israélo-palestinien, Mustapha El-Miri, pourquoi est-ce que ça fait tellement écho dans nos sociétés ? Pourquoi est-ce que ça les fragilise tellement ?
Au-delà du fait que ça les fragilise, ça les réveille, et ça réveille des tensions anciennes. Donc c'est pas tant de la fragilité qu'un éveil douloureux qui a lieu avec cette question. Et je crois qu'il est difficile de parler de la question israélo-palestinienne sans la démêler de toutes les autres questions qui circulent autour. Et si on veut la comprendre, et si on veut comprendre ce débat qui a l'air d'être passionnel en grande partie, mais qui n'est pas simplement que passionnel, la question juive, par exemple, est importante pour comprendre cela. 3000 ans de persécution. C'est pas simplement la Shoah, la persécution des juifs. C'est 3000 ans de persécution qui ont donné en grande partie le fait que les juifs, dans n'importe quel endroit du monde où ils étaient, étaient en situation d'incertitude qui pouvait les amener à être mis à la porte, à être persécutés du jour au lendemain. Donc si on ne comprend pas le rapport qu'ont les populations juives à Israël comme un rapport qu'ils ont à leur propre histoire, on ne peut pas comprendre l'attachement à cela. De l'autre côté, sur les populations dites arabes ou arabo-musulmanes, notamment sur Gaza, je pense que Gaza réveille aussi chez une partie du monde arabe cette histoire des vaincus, de la colonisation, le deux poids deux mesures à l'échelle internationale. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas non plus pourquoi ce qu'on appelle les rues arabes ont un rapport passionnel à cela. Et puis, dernier élément, je pense que ce qui réveille de manière douloureuse cette question, c'est qu'une partie des régimes, y compris arabes, qui sont des régimes du Moyen-Orient, ont intérêt à ce que ce conflit ne se règle pas. Le régime iranien aussi a intérêt parce que certains régimes ont construit leur légitimité, leur existence sur le fait qu'ils étaient aussi un rempart face à Israël. Et donc la question palestinienne se retrouve elle-même prise quelque part dans les débats de politique interne de grandes nations. De grandes nations qui ont des régimes autoritaires, comme j'évoquais tout à l'heure l'Iran. Donc si on n'arrive pas à démêler tout cela, au fond, je pense que ceux qui ont le plus envie de sortir de cette situation, ce sont les Palestiniens et les Israéliens. Et que si on n'arrive pas à remettre ce débat-là à ce niveau-là, on ne comprendra pas grand-chose. De même que j'insiste sur l'aspect de prendre en compte les singularités historiques des populations qui forment ces territoires et de leur attachement. Sinon, on rentre justement, non pas dans la résolution, mais dans l'alimentation des tensions qui traversent le débat sur ces questions aujourd'hui dans nos sociétés.
Florian Louis, vous êtes d'accord avec ça ? Vous avez l'impression qu'on est à une époque où on va aller démêler les fils, comme le suggère Mustapha El-Miri, ou que l'époque n'est pas du tout à ça ?
Malheureusement, le spectacle auquel on a affaire dans beaucoup de pays depuis la reprise des hostilités en Palestine montre bien que justement la passion et l'instrumentalisation prennent souvent le dessus sur la compassion et sur la rationalisation qui est la seule chose que nous puissions faire nous de l'extérieur. Et effectivement le vrai problème, j'ai l'impression, c'est que la question de Palestine en fait sert aussi de réceptacle où chaque société va projeter ses propres névroses, ses propres divisions, et chacun au sein même d'une société, par exemple la société française, va s'identifier à l'un ou à l'autre entre des acteurs en conflit dans une construction très largement imaginaire, d'ailleurs souvent en n'en connaissant pas grand-chose, ni de ces groupes en conflit, ni du conflit lui-même, et vient donc ajouter de la difficulté à la difficulté. Et donc on dit souvent, et on n'a pas totalement tort, que les Israéliens seuls face aux Palestiniens seuls n'arriveront jamais à se mettre d'accord, à trouver une solution, donc qu'il faut internationaliser, et elle l'est depuis au moins le plan de partage de l'ONU, internationaliser cette question. Et en même temps, on voit que l'internationalisation pose d'autres problèmes, parce que qui dit internationalisation dit évidemment aucun acteur n'est totalement neutre, aucun acteur ne vient là purement, bénévolement, si j'ose dire, et sans arrière-pensée, fût-elle inconsciente.
Et l'élection de Donald Trump aux États-Unis, par exemple, ce sera un élément de simplification de ce dossier ou pas? Certains l'espèrent, Mostafa El-Mirif.
Bah, écoutez, ce qu'on peut évoquer, ce n'est pas le Trump à venir parce qu'il n'est pas encore au pouvoir, mais le Trump qui est passé. Donc là, on l'a défait. Voilà. Et le Trump qui est passé, il a à la fois participé aux accords d'Abraham et en même temps la négation de la question palestinienne qui ont tout de suite limité les accords d'Abraham. À partir du moment où vous avez une grande puissance comme les États-Unis qui n'arrive pas à avoir un engagement équilibré, ça participe aussi à alimenter les discours des Iraniens, par exemple, que j'évoquais tout à l'heure, et ça participe aussi à alimenter les passions. Donc je ne suis pas convaincu que l'équipe Trump va participer à apaiser le débat sur ces questions. Par contre, il me semble que ce qu'on avait pu voir sur les accords d'Abraham, je prends un exemple comme le Maroc, qui a signé les accords d'Abraham. Au-delà de l'aspect discutable qui peut être soulevé sur fallait-il ou pas les signer, ce qu'on a pu voir et ce que j'ai pu observer en tant que sociologue au Maroc, c'est le retour de populations juives marocaines au Maroc et qui venaient en visite, en tourisme. Et ce qu'on pouvait voir, c'est qu'il y avait des juifs israéliens qui venaient s'installer dans des restaurants où il y avait beaucoup de Marocains, de musulmans. Et là, je me dis que ça nous pose question sur les types de boycotts qui ont été faits pendant quasiment 50 ans. Et que si on avait permis la circulation des Israéliens dans les pays arabes et inversement, peut-être qu'on aurait pu construire chez les Israéliens comme chez les autres des formes de cohabitation, ou en tout cas des formes de connaissance, qui auraient permis à la société et aux sociétés palestiniennes et israéliennes de faire pression sur le régime. Le fait qu'on puisse avoir des populations israéliennes qui circulent librement dans les pays arabes, je pense que c'est le meilleur gage pour pouvoir trouver des solutions.
Construire la paix.
Construire la paix. Et c'est ça qui a manqué, je pense, pendant un demi-siècle, parce que ce que disait Florian, dès qu'on est dans le passionnel amène souvent à penser les radicalités des positions. Alors, ce qui ne doit pas nous faire oublier qu'il y a un droit international et que ce droit international n'est pas respecté. Et ce qui peut nous mettre en accord aujourd'hui, c'est l'application du droit international. Et je pense que, par exemple, la CPI a fait preuve de quelque chose d'inédit qui n'est pas assez souligné. La prise de décision de la CPI est quelque chose qui va marquer tout de même les esprits, même si ça ne sera pas appliqué, même si des États vont s'y opposer. Le fait qu'il y ait eu cette décision des juges montre aussi qu'il y a une justice internationale qui a fait preuve d'une forme d'indépendance sur cette question. Et donc le droit est un élément qui nous permettrait de discuter de manière commune en nous extrayant des passions sur cette question.
Vous voulez réagir à ça ?
Oui, non, je suis assez largement d'accord avec ce que dit Mustapha. Simplement, la question, évidemment, le droit peut nous mettre d'accord à deux conditions. D'abord, qu'on soit d'accord sur son contenu. Donc, ça soulève la grande question de qui écrit le droit international. Et effectivement, vous soulignez, à condition qu'il soit appliqué. Et là aussi, je nuancerai un petit peu. C'est-à-dire que je me demande si ce n'est pas pire. On verra ce qu'il en sera dans le cas de Netanyahou et de ceux qui sont inculpés actuellement. Mais si ce n'est pas pire d'avoir une décision de droit qui n'est pas appliquée, si ça ne crée pas encore plus dans les opinions publiques mondiales un sentiment d'injustice, de frustration qui peut avoir de mauvaises conséquences, que de ne pas avoir cette inculpation.
Carrefour du Maghreb, enregistré au théâtre de La Criée à l'occasion des nouvelles rencontres d'Averroès. On va parler de la migration, puisque cet espace méditerranéen, c'est un immense cimetière depuis maintenant une dizaine d'années. On décrit le phénomène migratoire sur la rive nord de la Méditerranée, Mustapha El-Mehri, très souvent comme un phénomène tragique avec des perceptions qui sont bien souvent très loin de la réalité.
Oui, la première perception très loin de la réalité, ce sont sur les chiffres même de la migration internationale. Et lorsqu'on regarde les chiffres, sur l'ensemble de la migration internationale, seul 14% est africaine, 24% européenne. Donc il y a plus de migrants européens que ce qu'il y a de migrants africains. C'est un élément qu'il faut rappeler en permanence, même si on sait que les chiffres n'ont pas de poids dans les débats passionnels. Là où on a une vision négative de la migration, ce qui fait que la migration est négative, c'est pas le fait que les gens souhaitent bouger, c'est le fait qu'on les empêche. Et ce qui crée le cimetière méditerranéen aujourd'hui, c'est le fait qu'on empêche des gens de bouger de manière ordinaire. Parce que si on donnait le choix à des Sénégalais ou à des jeunes Marocains de pouvoir bouger par avion, ils prendraient l'avion et pas les barques. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Qu'est-ce qui fait que ces gens sont prêts à prendre des barques et à faire face à l'épreuve de la mort? Parce que c'est ça dont il est question. Ben, c'est là où on a une mauvaise lecture. Parce qu'on a une lecture à partir des pays d'accueil. On n'arrive pas à penser la mobilité de ceux qui ne sont pas attendus dans cette mobilité, c'est-à-dire les plus pauvres. À partir du moment où ils bougent, on pense le mouvement comme le produit d'une exception. Famine, guerre, pauvreté. Or, en réalité, on ne prend pas en compte un élément de base. Quand les gens ont bougé, c'est parce qu'il y a aussi un désir de bouger, comme nos jeunes l'ont. D'ailleurs, lorsqu'on regarde à l'échelle mondiale, les Européens qui bougent, et ils sont, je l'ai rappelé, 60 millions, on appelle ça des expatriés. Quand il s'agit d'Africains, on appelle ça des migrants ou des immigrants, les réfugiés, des demandeurs d'asile. Donc on voit bien que dans la qualification même de cette notion des différents types de mobilité, il y a une forme de qualification inégalitaire ou duale qui participe de l'acceptation du mouvement de certains et de la non-tolérance du mouvement des autres.
Oui, il y a une espèce de négation de la liberté à circuler.
Oui, plus qu'une négation, il y a un empêchement réel, puisqu'on met des frontières, on met des moyens financiers, on met des moyens militaires pour les empêcher. Et je crois qu'on n'a pas pris en compte que si les gens bougent en Afrique, moi j'inscris cela dans la continuité du mouvement de la décolonisation. Et ce qui s'est passé dans les années 60, quand les gens se sont décolonisés, on a eu une lecture en Europe de la décolonisation comme un produit des élites de ces pays-là. On n'a pas pensé le paysan algérien analphabète comme étant en capacité de demander lui aussi sa décolonisation. Or, elle a eu des effets, cette décolonisation. Et un des premiers effets, c'est que les populations revendiquent d'être à hauteur de droit avec les autres. C'est pour ça que je pense qu'il est important, des fois, de prendre en compte ce qui naît comme idée, même si cette idée n'est pas mise en place, n'est pas achevée. On est chez Walter Benjamin, qui voyait dans la Révolution française, pas le fait que la France ait changé du jour au lendemain, mais le fait que la Révolution française a fait naître une idée qu'on ne pouvait pas rendre irréversible par la suite. Donc le fait de se sentir libre ou à égalité de droit avec les autres est irréversible.
Florian Louis, vous faites partie du comité de rédaction du think tank Le Grand Continent, qui est une revue qui pense l'Europe. Ce que vient de dire Mustapha El-Miri sur ces entraves au voyage, cette non-reconnaissance de la liberté de voyager des subsahariens, est-ce que les Européens l'entendent ?
Oui, bien sûr, mais les Européens, comme beaucoup de peuples aujourd'hui, ont peur, sont sur le repli et la défensive. L'Europe se sent en déclin, se sent encerclée, que ce soit par des puissances ou par des masses démographiques. Et par certains aspects, le conflit israélo-palestinien dont on parlait est le fruit d'une migration ratée, mal encadrée. Et donc, on ne peut pas simplement dire qu'il faut une liberté de circuler totale sans aucun contrôle. Je pense que ce n'est pas non plus une solution. Et donc, il faut construire quelque chose, et pour ça, il faut effectivement tenir compte de ses passions et de ses peurs pour essayer de construire des éléments plus rationnels.
Une dernière question pour vous, Mustapha El-Miri. Est-ce que, dans cette réflexion que peuvent avoir les chercheurs sur les phénomènes de la migration, sur la guerre, sur l'appel au développement, on ne voit pas émerger des espoirs pour cet espace méditerranéen demain ?
Quand Florian dit les Européens ont peur, moi je pense que la peur, c'est une crise identitaire européenne. Et cette crise identitaire, elle est aussi le produit de la construction même de l'Europe. Et dans ce sens-là, cette peur peut traduire aussi des formes d'espérance. Parce que l'Europe, on ne peut pas dire que c'est quelque chose de mauvais qui est arrivé à ce continent. De même qu'on ne peut pas avoir peur du fait qu'une partie des jeunes Africains qui viennent en Europe, ils bougent en Europe avec l'idée d'universel, qu'en partie a produit l'Europe par son siècle des Lumières, que l'Europe a produit par un discours politique sur le droit de l'homme, sur les libertés. Et je trouve dans cela une espérance incroyable lorsque ceux qui vous arrivent de l'extérieur sont porteurs dans leurs yeux des rêves auxquels vous renoncez petit à petit par vos peurs. Donc ils vous rappellent de ne plus avoir peur et d'avancer. Donc si on arrive à comprendre cet aspect-là, je pense qu'on a un début de dialogue entre sociétés avant de parler du dialogue régime. On est dans une période où on a une victoire anthropologique sur la question des femmes, rapport homme-femme, sur la question de la singularité des minorités, sur la question des rapports d'égalité, sur les questions économiques. Les sociétés ont avancé sur ces questions, mais on est dans une période aussi de défaite politique. Et là où j'ai de l'espoir, c'est que la défaite politique ne peut être que conjoncturelle. La victoire anthropologique est irréversible. Par contre.
Le sociologue Mustapha El-Miri et l'historien Florian Louis aux nouvelles rencontres d'Averroès à Marseille. Merci au Théâtre de la Criée. Réalisation et prise de son, Françoise Grelot.